Merci d'être à l'écoute de RFI. Les 17h à Paris, 15h en temps universel et 18h à Kiev. Le journal vous est présenté par Mayol de Charon. Bonjour Mayol.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Et à la une, la dernière ligne droite en France. À 5 jours du second tour des législatives, l'heure est aux ultimes tractations avant la clôture des candidatures dans une heure. La barre des 200 désistements est franchie dans une tentative de constitution de front républicain face au Rassemblement national. C'est sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le Premier ministre hongrois et président en exercice du Conseil de l'UE, Viktor Orban, a appelé au cessez-le-feu, une position divergente des autres dirigeants européens. Le président américain Joe Biden dénonce un dangereux précédent après la décision de la Cour suprême des États-Unis rendue hier. La plus haute juridiction américaine a étendu l'immunité pénale présidentielle, une victoire pour Donald Trump. Et puis l'ouragan Beryl a fait au moins un mort à Saint-Vincent et les Grenadines, classé en catégorie 5. Il balaye actuellement le sud-est des Antilles et cause de nombreux dégâts. Il est l'ouragan le plus précoce jamais observé dans le bassin atlantique. À 5 jours du second tour des législatives en France, un front républicain dans la douleur pour faire barrage au Rassemblement national. C'est la dernière ligne droite pour les partis. Les dossiers de candidature doivent être déposés en préfecture avant 18h. Pour l'instant, près de 200 candidats arrivés en troisième position se sont désistés. La campagne express, elle, se poursuit. Le Premier ministre Gabriel Attal était, lui, en visite dans le 17e arrondissement de Paris ce matin pour soutenir le candidat de la majorité, Stanislas Guérini. Le reportage de Charlotte Turien Tomaca.
Il fait campagne tambour battant, staccanoviste pour cet entre-deux-tours. Pas moins de 3 circonscriptions en une seule journée. Et ce matin, il tente de clarifier les choses.
Désistement ne veut pas dire ralliement. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ni la France Insoumise, ni le Front Populaire ne peuvent avoir une majorité absolue. Quoi qu'il se passe, hélas, les seuls en capacité d'avoir une majorité absolue aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Il faut empêcher ça.
Le Premier ministre, qui ne cesse de marteler cette phrase, je cite « On compte sur vous dimanche prochain » auprès de tous les Parisiens qu'il croise. Opération sauvetage donc, et au moins 80% des personnes croisées lui posent la même question. Quelles sont les consignes de vote? C'est flou, on n'a pas compris, lui ont dit au moins 3 habitants. Et surtout, on ne comprend pas ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui refuse d'appeler à voter pour un candidat LFI, y compris pour faire barrage au RN. Des propos qui vont à l'encontre des consignes dictées par Gabriel Attal lui-même, qui a d'ailleurs répondu à son ministre de l'économie.
Moi j'ai fixé une consigne très claire. Je vois bien qu'il y a des prises de parole ou des positions qui sont différentes, mais l'important je crois c'est ma parole, moi qui mène cette campagne, et surtout ce qui se passe sur le terrain avec des candidats qui dans un certain nombre de circonscriptions se désistent.
Seul objectif donc pour le Premier ministre, continuer à tout faire pour que le RN n'ait pas la majorité absolue dimanche prochain.
Charlotte Urien Tomaca. L'échange a été scruté de très près. Viktor Orban est en déplacement à Kiev, sa première visite depuis l'invasion russe en Ukraine. Le Premier ministre hongrois s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Viktor Orban qui vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne et qui affiche sa proximité avec Moscou. Le Premier ministre hongrois se démarque très nettement de ses pairs européens sur le dossier ukrainien. Il bloque régulièrement l'aide militaire à Kiev et s'est opposé à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Stéphane Sion, les deux dirigeants ont affiché leur position.
Viktor Orban et Volodymyr Zelensky ont tenu mardi après-midi une conférence de presse et sans surprise, le dirigeant hongrois a exhorté son homologue ukrainien à accepter un cessez-le-feu afin de parvenir à la paix. « J'ai demandé au président Zelensky de considérer la possibilité d'un cessez-le-feu rapidement », a déclaré Viktor Orban. « Un cessez-le-feu qui serait limité dans le temps et qui permettrait d'accélérer les négociations de paix avec la Russie ». De son côté, Volodymyr Zelensky a plaidé pour un maintien du soutien et de l'aide militaire européenne alors que dans le passé, le gouvernement de Viktor Orban a bloqué à plusieurs reprises les versements de tranches d'aide de Bruxelles. On le voit, il n'est pas certain que la première visite de Viktor Orban à Kiev depuis 12 ans ait permis de rapprocher les deux pays. Car depuis le début de l'invasion russe, Viktor Orban se fait régulièrement le porte-voix des propositions du Kremlin. Et cela semble être encore le cas aujourd'hui avec cette idée de cesser le feu régulièrement mise en avant par les dirigeants russes. À Kiev, beaucoup craignent le retour au pouvoir de Donald Trump cet automne et l'avènement d'un axe listes nationalistes entre plusieurs pays, dont Washington, Budapest et peut-être Paris, qui seraient instrumentalisées afin de forcer l'Ukraine à des compromis territoriaux. Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
Alliés de l'Ukraine, les États-Unis annoncent ce mardi une nouvelle aide militaire de 2,3 milliards de dollars pour Kiev. Au lendemain d'un nouvel ordre d'évacuation de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, il y a désormais 1,9 million de déplacés dans l'enclave, selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU, qui se dit vivement préoccupée par ces nouveaux ordres d'évacuation. Le Croissant Rouge palestinien annonce par ailleurs que des frappes israéliennes ont fait 8 morts et 30 blessés à Khan Younes et Rafah dans le sud de l'enclave ce matin. En Inde, le bilan s'alourdit. Près d'une centaine de personnes sont mortes écrasées par la foule lors d'un rassemblement religieux hindou dans le nord du pays. La population s'était rassemblée pour célébrer le dieu hindou Shiva dans la ville de Hathra, située à 140 km au sud-est de New Delhi. Le président américain Joe Biden dénonce un dangereux précédent après la décision rendue par la Cour suprême américaine sur l'immunité présidentielle. La plus haute juridiction du pays renvoie aux juridictions inférieures le soin de déterminer quels actes sont potentiellement immunisés de poursuites pénales quand on est un président. Une décision qui joue en faveur de Donald Trump car ça retarde encore son procès pour son rôle dans l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Joe Biden demande lui aux électeurs américains d'empêcher la réélection de Donald Trump.
Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Pas même le président des États-Unis. La décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle vient de tout changer. Elle signifie que dans la pratique, il n'y a plus aucune limite à ce que le président peut faire. Il s'agit d'un principe fondamentalement nouveau. Et c'est un dangereux précédent. Parce que le pouvoir du président ne sera plus limité par la loi, ni même par la Cour suprême des États-Unis. Les seules limites seront celles que le président s'imposera à lui-même. Le peuple américain va désormais devoir faire ce que les tribunaux auraient dû faire, mais qu'ils n'ont pas fait. Le peuple américain doit rendre un jugement. Il doit décider, à la lumière du comportement de Donald Trump, s'il veut lui confier à nouveau la présidence, sachant que désormais, il sera encore plus enclin à faire ce qu'il veut, quand il le veut.
Le président américain Joe Biden. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro annonce la reprise des discussions avec les États-Unis malgré les sanctions de Washington contre le secteur pétrolier. Elles avaient été réimposées en avril par la Maison-Blanche après l'éviction de la principale dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, de la course à la présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Des vents à près de 270 km/h et des pluies torrentielles. L'ouragan Beryl qui balaie en ce moment le sud-est des Antilles a fait au moins un mort dans l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, classé en catégorie 5, la plus haute sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il est le plus précoce jamais observé dans le bassin atlantique et les dégâts sont importants. Yelena Tomic.
Les images tournées à l'aide d'un drone au-dessus de Cariacou, une petite île de la Grenade, montrent un paysage de désolation. Des toits et des fils électriques arrachés, des maisons éventrées, des arbres et palmiers tenant à peine debout. La scène témoigne de l'intensité de l'ouragan Beryl, qui en une demi-heure, avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, a frappé l'île qui se trouvait pile sur la trajectoire de l'œil de l'ouragan. D'autres îles et archipels, la petite Martinique, Saint-Vincent et les Grenadines, ont enregistré des vents catastrophiques et des pluies torrentielles. La Martinique, placée en état d'alerte à la tempête tropicale, tout comme le sud d'Haïti et de la République dominicaine, ont connu des vents forts et de grosses averses passagères, mais sans conséquence. Tous les regards se tournent désormais vers la Jamaïque et l'île de Tobago, où on a décrété l'état d'urgence. La population se barricade avant l'impact prévu mercredi. L'ouragan Beryl inquiète les climatologues par sa taille, son intensité et sa précocité, 2 semaines plus tôt que la normale, signe du réchauffement des océans dont la température atteint les niveaux habituellement enregistrés à la mi-septembre.
Yelena Tomic. En football, il reste 2 billets à distribuer pour les quarts de finale de l'Euro 2024 de football. Les Pays-Bas affrontent la Roumanie dans 1 heure. L'Autriche fera elle face à la Turquie. Ce sera à 19h, temps universel. Hier, la France s'est qualifiée en battant la Belgique 1-0. Les Bleus qui affronteront le Portugal vendredi prochain. Et puis, c'était probablement le dernier Wimbledon de sa carrière. Andy Murray, vainqueur du Grand Chelem londonien en 2013 et 2016, ne participera pas au tournoi en simple. C'est ce qu'a annoncé son entourage. Du côté des femmes, la tenante du titre, Markéta Vondrousova, a été battue d'entrée par la 83e mondiale espagnole, Jessica Bouza. CRFI, il est 17h10 à Paris, l'heure de retrouver Jean-François Cadet en direct du Festival d'Avignon.